Robert, j'appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité à Parole aux Auditeurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore après plusieurs mois d'absence. Votre magazine des champs citoyens vous propose un sujet d'actualité. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Au moins 25 personnes, en majorité des vendeuses, au marché Matadi Kibala, dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, nous sommes là dans la ville, province de Kinshasa, sont mortes électrocutées le mercredi 2 février à la suite de la coupure d'un câble électrique à haute tension de la Société Nationale d'Électricité SNEL. Se faisant à ces drames, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité appelle la population congolaise qui vit sur les servitudes de la Société Nationale d'Électricité de quitter ces lieux. Cet appel a été lancé le jeudi dernier au cours d'une conférence de presse. Selon Olivier Mwenze Mukaleng, ceux qui ne vont pas libérer ces espaces seront frappés par des mesures qui sont envisagées à ce sujet par le gouvernement. Ceci relance donc les débats sur la problématique d'urbanisation en République démocratique du Congo. Alors, qu'en pensez-vous? Vous êtes nombreux à avoir lu et commenté ce sujet sur notre page Facebook. Merci de la confiance que vous continuez à faire à ces programmes sur Radio Okapi, qui est réalisé par Pierrot et la Meji en ce moment. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs.
Je sais que vous êtes nombreux à avoir commenté ces sujets sur notre page Facebook et il y a beaucoup d'encre et de salive qu'on a dû en tout cas à ressortir par rapport à cette question. Nous avons invité dans ce studio monsieur Michel Ouyumbu qui est avec nous. Monsieur Ouyumbu, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes président de la Corporation Nationale des Ingénieurs BTP, entendez par là bâtiments et travaux publics. C'est bien cela.
Exactement.
Alors d'entrée des jeux, est-ce une question d'urbanisation ? Aujourd'hui, après avoir compté ces morts, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème d'urbanisation?
Merci beaucoup, M. J.R. Laisse-moi d'abord présenter mes condoléances, les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu les leurs, par quelque chose qui pouvait être évité. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait et voilà que des vies humaines en ont payé le prix. Alors, Monsieur J.R., je voudrais dire que la ville ne s'improvise pas. La ville se développe, et se développe sur des plans directeurs, se développe sur base des réglementations, et ces réglementations-là, ce ne sont pas des réglementations pour lesquelles je veux, je les applique, mais ce sont des réglementations qui sont imposables à tout le monde. Je venais de suivre lors de l'introduction, vous avez dit que le ministre a lancé un appel. Le ministre n'a pas lancé un appel. Le ministre a donné un ultimatum pour dire dans un mois, dans deux mois, tous ceux qui occupent des servitudes des lignes de transport du courant électrique, surtout les lignes à haute tension, doivent vider les lieux. Parce que ces gens-là n'auront aucun document à présenter. Même s'ils ont acquis des titres de propriété, mais il est bien dit dans la loi que quand un titre de propriété est acquis en violation de loi sur l'urbanisme, ce titre-là est nul et est frappé de nullité. Donc, il s'agit d'un problème de sécuriser nos populations. Il ne s'agit pas d'un problème de choix. Donc, l'État doit le faire. L'État a tous les moyens possibles. Bon, bien sûr, on pourrait dire que le problème date d'il y a très longtemps, mais il y a le principe de la continuité de l'État. Ils se sont installés là, quelque part avec certaines autorités, mais aujourd'hui, que le drame est arrivé, je pense qu'il est temps.
Oui, mais pour que l'autorité quand on décrit, on condamne des constructions anarchiques, on condamne des populations qui squattent des lieux sans autorisation de l'autorité établie. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il s'agit là réellement d'une question d'urbanisation ou un problème de la gestion de la cité?
Bon, je pense qu'il y a les deux ensemble. Il y a les deux ensemble parce que dans cette ville depuis 1960, nous avons eu différents plans d'aménagement qui n'ont jamais été appliqués. Ça, c'est de un. Même celui que nous avons actuellement, qu'on appelle les SOSAC, les schémas d'orientation stratégique de la ville de Kinshasa, je me pose la question de savoir quel est ce taux d'application. Ça a été appliqué à quel taux? Sinon, la ville est en train de se développer sans ligne directrice, ce qui ne peut pas être acceptable. Donc, d'une part, il y a un problème de manque de politique cohérente en matière d'aménagement de nos villes. Et d'autre part, il y a un problème de laisser aller, où l'autorité laisse faire la population. Évidemment, nous savons qu'il y a un besoin. Parce que quand la population s'installe n'importe où, ça veut dire qu'il y a un besoin. Le besoin, c'est quoi? Le besoin en logement. Alors, comme la production de logements pose problème, la population se débrouille elle-même. Et quand la population se débrouille elle-même, vous pouvez vous rendre compte que c'est au processus de l'État.
Oui, parce que ce qui étonne plus d'un, il y a eu beaucoup d'appels à la délocalisation de ces marchés et qui sont restés sans succès. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, disons, c'est ce qui fait vraiment rire et qui est désolant. On raconte une histoire d'une dame, une policière qui passait chaque matin sur cette route, demandant aux mamans, même aux occupants de ces marchés, de pouvoir se délocaliser. Personne ne voulait entendre de leur oreille. Et si nous nous référons même à cet appel, en tout cas le tout dernier, fait par le chef de l'État, le 7 janvier, pour ne pas les citer, le 7 janvier, mais qui restait aussi sans succès, c'est quoi le problème?
Je me rappelle, M. J.R., qu'en 2005-2006, nous avons adressé un mémo au gouverneur de l'époque, lui demandant de délocaliser certains marchés, entre autres celui de Matadi Kibala. Le mémo a été réceptionné.
En quelle année?
En 2005-2006. Le mémo a été réceptionné et puis il n'y a eu aucune réaction par après.
À l'époque, c'était les gouverneurs Kimbembe Mazoua.
C'était Kimbembe qui était gouverneur à l'époque. Et dans le mémo, nous avons mentionné, j'ai encore la copie du mémo. Donc, il n'y a pas que Matadi Kibala qui pose problème, parce que je dis, il y a eu Mordom, mais il y a des endroits similaires à Matadi Kibala. Des centaines d'endroits dans cette ville, où les gens se trouvent sur la servitude des chemins de fer, où les gens se trouvent installés dans les zones de captage des eaux, où les gens se trouvent dans les entreprises de route. Je vous assure, monsieur J.R., que ce phénomène-là a pris tellement de l'ampleur et que l'État ne réalise pas ce que ça va nous coûter un jour. Je vais vous donner un exemple simple. Les Japonais avaient voulu, ils avaient porté leur choix sur la route, l'avenue de l'université, pour que le gouvernement japonais prenne ça en charge, comme ils l'ont fait avec la route de poids lourds, qu'on appelle aujourd'hui boulevard Congo-Japon. Mais regarde l'emprise de l'avenue de l'université. Quand vous partez de Saint-Raphaël jusqu'au Repaiso, vous avez un endroit, vous avez l'emprise pour faire l'élargissement de la route. Mais dès que vous arrivez au niveau du rond-point ok, c'est un rétrécissement jusqu'à Ropangaba. Mais qui a installé cette population là-bas? C'est l'État congolais. L'État les a installés. Ces gens ont des certificats d'enregistrement et qui prouvent réellement qu'ils sont propriétaires. Mais ils se sont installés sur l'emprise d'une route. Et, alors, pour le gouvernement japonais, pour la coopération japonaise, je vous l'ai dit, il n'était pas question d'indemniser cette population-là avec l'argent des contribuables japonais. C'était la partie congolaise qui devait indemniser cette population pour qu'ils quittent l'emprise de la route, qu'on élargisse la route. Ça n'a jamais été fait et la route n'a jamais été élargie. Je prends le cas de la route qui part de l'IPEN vers Sangamamba, pardon, de l'IPEN vers Pompage, passant par Sangamamba. Pourquoi le projet est bloqué? Tout simplement parce que les gens ont occupé l'emprise de la route. Donc, s'il faut que ce projet soit exécuté, il faut absolument que tous les occupants puissent déguerpir.
Oui, parce que quand j'observe ces derniers temps, je ne sais pas si vous êtes arrivé de passer par l'IMETE, juste de l'autre côté de l'industriel, entre, disons, dans les tronçons 7e, si mes calculs sont bons, ou ma vue, hein, parce que je vois entre 7e, même jusqu'à 13e, on a installé un parc de jeux. C'est quand même une servitude, hein.
Bon, je connais bien le projet parce que à l'époque il y avait eu un plan d'urbanisme de la ville qui a été élaboré par un architecte urbaniste de l'époque qui avait prévu que sur ces linéaires qu'il y ait un parc. Ça a été prévu comme ça à l'époque.
Pourquoi par exemple un métro qui devait passer par cet endroit au lieu de mettre un parc qui ne serait utilisé que pour les consommateurs? Excusez-moi,
Laisse-moi vous dire que ce projet-là avait avorté. Malheureusement, on veut revenir sur un plan d'humanisme qui avait déjà avorté. Et la conséquence, c'est quoi? Regarde, moi je me pose la question, quelle est la garantie de sécurité qu'on a pour ces parcs? Imaginez-vous un bus 207 qui roule la vive allure.
Un truck qui roule
la vive allure, qui quitte carrément la route parce qu'il a un problème de freinage ou un problème technique, qui entre dans les parcs. C'est ce jour-là qu'on va se dire, il faut délocaliser les parcs. Non, je ne pense pas. C'est maintenant qu'il faut prendre.
À l'époque, il y avait même une église sur la 7e rue où les gens priaient sur la route. En tout cas, au vu au-dessus de tout le monde.
Donc je pense que l'État a plusieurs moyens. L'État doit sensibiliser, mais l'État doit agir. Si la sensibilisation ne donne pas de résultats escomptés, l'État doit mobiliser la police pour que les lois et règlements du pays soient appliqués. Donc il n'y a pas d'autre forme de procès à faire.
Donc il y a aussi la responsabilité quand même des citoyens, des commets des mortels quand même.
Le citoyen a sa responsabilité, je n'en dis qu'on vient pas. Mais l'État a le moyen contraignant. Si vous ne voulez pas écouter, je vous fais partir d'ici. Parce que vous devez partir. C'est ça la responsabilité que combat l'État. On peut sensibiliser les gens. Mais vous allez, je vous ai dit tantôt que la plupart des problèmes que nous avons en matière d'urbanisme sont des problèmes réels qui ne sont pas résolus en amont. Pourquoi les gens s'installent dans les zones collinaires, dans les bas-fonds, en dessous des lignes de haute tension? Parce qu'ils ont besoin d'un logis. Alors, si le gouvernement n'a aucun projet pour la production de logements sociaux, ça veut dire quoi? Cette population va se débrouiller. Et quand la population se débrouille, c'est malheureusement, ce n'est pas un avantage pour l'État. Donc, l'État doit d'un côté résoudre les problèmes de production de logements et de l'autre côté, faire appliquer la réglementation.
Alors, par rapport à la gestion de cette drame qui est survenue au niveau des Matadi-Kibala, on a vu, comme nous l'avons annoncé, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité monter au créneau pour demander à tous ceux qui occupent les servitudes de la Société Nationale d'Électricité de quitter ces lieux. Mais quand on sait que sous notre essieu, il y a aussi des lignes à haute tension, il y a aussi des lignes à moyenne tension qui traversent même les hauts des maisons. Je prends les cas au Texas, par exemple, aux États-Unis, qui le Texas qui a connu pour après plusieurs années la neige, c'était l'année dernière, et qui était suivie même des tornades. Il y a même des poteaux qui étaient endommagés, mais ça n'a pas fait autant de dégâts parce que c'est sécurisé. Oui. Est-ce que c'est un problème aussi de respect dans la construction, de l'installation de l'outil, même de la SNEL. Donc il y a responsabilité aussi de la SNEL.
Vous avez raison, mais c'est JR. Je voudrais dire que le ministre aurait demandé à toute la population quinoise de vider les lieux. Parce que dans la rue où nous habitons, dans nos avenues, nous avons des câbles nus. Mais il ne nous a pas demandé de quitter les lieux, alors que nous sommes en danger. À 0 mètre de chez moi, il y a des trous où des câbles sont complètement exposés à nu. C'est dénudé. Pourquoi il ne nous a pas demandé à nous de vider les lieux? Donc, c'est une façon de s'exposer.
Parce qu'on est exposé au quotidien.
Absolument, c'est une façon. Combien de gens meurent électrocutés alors qu'ils sont sur l'avenue à côté de chez eux en train de marcher et que le câble est dénudé et pose des problèmes et qu'il y a une décharge et que la personne meurt? Mais je pense que des cas isolés comme ça, il y en a plusieurs dans la ville.
Voilà.
Donc, j'ai revu au problème de la sécurité des lignes haute tension. Mais c'est JR. S'il y a des équipements qui doivent être sécurisés au maximum, ce sont les lignes de transport de courant électrique. Laisse-moi vous dire, je ne suis pas spécialiste en électricité, mais le peu de connaissances que j'ai en matière d'électricité me permet de comprendre qu'il y a une double sécurité qu'on fait sur les lignes à haute tension. La première, c'est pour éviter que les lignes soient frappées par la foudre. Et là, on met des dispositions anti-foudre, on appelle des paratonnerres, qui sont installés sur les lignes à haute tension. Et la deuxième, si la ligne reçoit par exemple une surintensité due par exemple à une foudre, il y a un mécanisme de coupure automatique de la ligne. Il est inadmissible que les câbles à 20 et 30 mètres de hauteur descendent en bas et que le câble est encore sous tension. Donc, cela veut dire que le système, le mécanisme de sécurité n'a pas marché ou peut-être qu'il n'existe plus.
Donc, il y a une responsabilité de la SNEL.
Mais nous comprenons, M. JR, si au niveau des câbles élémentaires que nous avons dans nos quartiers, ces câbles ne sont pas sécurisés. Vous pouvez vraiment croire que la ligne haute tension est sécurisée?
Alors, mais...
Parce que la sécurité sur nos câbles de moyenne tension, de courant domestique, est beaucoup, coûte beaucoup moins cher que la sécurité sur des câbles de haute tension et de très haute tension.
Alors, merci Ouyumbu. Nous allons ouvrir les standards et accueillir les auditeurs qui ont souhaité, en tout cas depuis avant-hier, de participer à cette émission sur ces drames survenus dans la partie ouest de la ville, la province de Kinshasa, qui a endeuillé plusieurs familles à la fois. En tout cas, selon les bilans, plus d'une trentaine de familles qui se sont retrouvées endeuillées. Alors, vous êtes là nombreux à avoir souhaité intervenir dans cette émission pour votre point de vue par rapport à cette question. Est-ce que c'est une question d'urbanisation ou une question fortement de la gestion de la cité? 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour Thierry, bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution?
Merci beaucoup, bon retour à vous. Et nous espérons également le retour de Jocelyne Moukendi, espérant que la mèche ne va pas nous quitter. Hier, le débat refait surface. C'est une intersection. Un vrai carrefour qui fait appel non seulement à la problématique liée à l'urbanisme, mais aussi celle de l'énergie, du transport, des infrastructures, de la communication. Parce que la plupart des terrains qui sont aujourd'hui, je dirais, exploités à tort ou à raison, appartiennent justement à ces quelques ministères que nous venons de citer. Il y a une situation similaire qui se vit aujourd'hui dans la commune de Matete, notamment dans les quartiers des Bonhommes, où la population partage l'air de chez soi avec les pylônes de la SNEL, je vais dire les pylônes, ou bien encore les fils conducteurs des stations à haute intensité. Et il y a encore un autre élément sur la prolifération des stations-services partout à Kinshasa, qui est vraiment des facteurs, je pourrais dire, des facteurs dramatiques, parce que demain ou après-demain, cela peut dégénérer et nous allons encore compter les morts.
Voilà, si je comprends bien Christian, vous voulez dire exactement que la ville de Kinshasa dans son ensemble est sous l'insécurité totale à tous les niveaux.
Évidemment, j'ai un deuxième mot. Toute la ville entière, en tout cas, nous partageons nos maisons, nos chez-soi, avec des situations qui peuvent demain se dégénérer et nous allons encore continuer à compter les morts. Voilà pourquoi nous profitons de cet instant pour compatir avec toutes les familles, mais tout en soulevant encore cette question, en interpellant les autorités. L'invité a dit une chose très importante, il dit le ministre a donné un ultimatum. Mais il ne faudrait pas chercher à résoudre ou encore à répondre face aux conséquences, mais il faudrait anticiper les choses. Parce qu'il a le pouvoir de la puissance publique entre ses mains, surtout les autorités de tutelle. Et donc aujourd'hui, il faudrait faire en sorte que nous puissions résoudre cette question. Notamment, je crois qu'il faudrait dès aujourd'hui prendre des mesures allant dans le sens d'interdire ceux qui exploitent les biens. Ou d'abord, il faudrait d'abord commencer par la délocalisation de ceux qui occupent ce genre de biens, tout en les plaçant ailleurs, mais aussi utiliser à bon escient l'endroit jadis occupé par les marchands. Cela permettrait, dans la langue, que ce genre de situation ne se répète pas. Et il faudrait maintenant placer justement ce qu'on appelle des panneaux, avec des communications allant dans le sens d'interdire l'exploitation ou toute activité allant dans le sens contraire.
Oui, c'est ce qu'a dit notre invité, la question de la sensibilisation.
Oui, il y a un autre élément, j'allais également revenir sur ça, la question de la sensibilisation radio-téléphonique, radio-télévisée. C'est très important, il faudrait sensibiliser la population pour comprendre pourquoi il ne faudrait pas exploiter ce genre de lieux, comprendre tous les méandres qui entourent ce genre de lieux, parce que aujourd'hui vous pouvez aller vendre pour chercher le pain, mais derrière ce pain, vous pouvez perdre des vies. Aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont aujourd'hui meurtries. Donc, nous ne voudrons pas continuer ce genre de choses. Il y a un autre élément que vous aviez soulevé sur le parc d'attractions qui a été
installé
sur le long de l'immédiat. Mais une fois qu'un accident survient sur ces lieux, nous allons encore comptabiliser les morts. Et donc, il faudrait aujourd'hui prendre des mesures qui vont nous épargner dans 20 ans.
Oui, la question qui est soulevée ici, c'est aussi cet attentisme. On ne sait pas comment cela se justifie. Le chef de l'État avait instruit le gouvernement en date du 7 janvier de pouvoir s'y pencher, de pencher sur cette question du marché de Matadi Kibala notamment. Mais finalement, on a eu l'impression qu'il y a eu quand même une certaine léthargie jusqu'à à l'avènement de ces drames.
C'est cette question de la léthargie ou encore la lenteur que nous trouvons dans certaines mesures prises par les autorités ou encore les chefs de l'État, et je dirais que des fois c'est justifié parce que les chefs ne sanctionnent pas assez ses collaborateurs. Les chefs est trop, je dirais, large avec ses collaborateurs. Jean Mungembo, il y a cette question qui, en tout cas, face à la vie de tout un peuple, il faudrait prendre vraiment des mesures qui s'imposent. Nous ne pouvons pas continuer toujours avec des mesures qui, en tout cas, tardent à s'appliquer. Et demain, c'est en fait lui qui sera comptable et tous les morts qui sont aujourd'hui plairés, en tout cas, seront en fait n'auront pas d'autres qualificatifs. Nous allons dire que c'est en fait ce gouvernement qui nous a endeuillés. Donc il faudrait éviter
ce genre de drame. Merci beaucoup.
Seulement cette question, mais il y a d'autres situations qui se posent. Donc il faudrait vraiment prendre des mesures pour éviter que nous puissions
continuer toujours à plaire aux morts. Merci beaucoup Christian d'avoir partagé ces moments avec nous, avec votre proposition et également votre réflexion sur cette question qui a pu soulever l'encre des salives auprès de la population congolaise. Alors Kalo, vous êtes un Mbujimayi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Hier, vraiment la voix qui m'a manqué beaucoup de temps.
On est ensemble, les calots.
Mes condoléances d'abord à la famille, aux familles qui ont perdu l'air dans ce drame et aux Congolais en général. Mais néanmoins, sur cette question, moi je trouve que la légèreté et la négligence de nos autorités sont à la base de tout ce qui arrive, qui cause les morts de nos compatriotes. Et je dois vous rassurer. Et malgré que le chef de l'État, vous venez d'affirmer que le chef de l'État avait donné l'ultimatum pour que le gouvernement puisse prendre la charge de, dans les 20 gens-là, sur cette ligne de haute tension. Mais il n'a pas pu. Moi, je me dis aujourd'hui, là, qui est responsable? Il est responsable numéro un, c'est le gouvernement, associé aussi au gouverneur de la République. Il faut aussi ajouter aussi les organes et les entreprises de l'État. Ici, je parle de la FNL. Aujourd'hui, même quand nous parlons, c'est un discours vain pour moi parce que nous avons déjà prévu les Congolais et les Congolaises, mais nous pensons. Aujourd'hui, le ministre tente de donner l'ultimatum pour que ces gens-là quittent ces liens. Moi, je me dis, est-ce que dans ce marché, l'État congolais, les autorités n'ont pas une même issue de ce marché? Ils n'ont pas, quand je dis de même issue, je pense aux impôts et taxes. C'est-à-dire, l'occupation à la risque de nos compatriotes dans des sites dangereux sont soutenus toujours, et soutenus plutôt par toujours les autorités en question. Ici, moi, je me dis, il faut interpeller les gens. Comme le président avait donné l'information pour que ces gens-là quittent. Et aujourd'hui, nous avons perdu les humains. En tout cas, je me dis, les seigneurs, regardez ici en vous, je peux vous dire une chose. Vous allez trouver sur un poteau plus de 50 câbles électriques. Moi, je me dis, aujourd'hui, les gens de l'FNL ne peuvent pas vraiment adapter vraiment la technologie appropriée pour le système ici d'électricité. Parce que si un câble pose un problème, ça va endommager les autres. Et nous perdons chaque jour ici les compatriotes à cause de ces lignes de l'FNL. Moi, je me dis, l'FNL doit payer dans ces histoires ici. Moi, je trouve qu'on doit convoquer réellement. Vous révoquer d'abord parce que ça, c'est une négligence qui a coûté la vie de nos compatriotes. Alors, à ce sujet, je pose la question à votre invité. Aujourd'hui, là, qui est responsable de ce qui est arrivé? Dans son mort, effectivement, on avait déjà parlé. Aujourd'hui, nous revenons. On dit ceci. Mieux vaut prévenir que guérir. Quand on gère, on prévient. Quand on gère, on doit s'assurer réellement. On doit avoir le contrôle réellement entier de ce qu'on gère. Quand on ne sait pas contrôler vraiment, en tout cas, on n'est pas appelé à diriger ce pays, à diriger une entité, à diriger une entreprise. Ils doivent le faire. Et puis, ils doivent être poursuivis.
Donc, si je comprends bien, vous insistez que ce n'est pas seulement une question d'urbanisation, mais c'est plutôt une question de la bonne gouvernance, c'est la question de la gestion de la cité.
Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, dans cette histoire, moi, ça me fait très mal. Quand nous perdons et nous commençons à faire des discours pareils,
merci beaucoup.
En tout cas, ça ne m'arrange pas du tout, monsieur Gilles.
Merci beaucoup, Kalo, d'avoir appelé et depuis Mbujimaï. Alors, on va prendre Trésor. Trésor, vous êtes à Kinshasa. Trésor Richard. Bonjour et bienvenue dans Parole.
Bonjour, cher. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati. Bonjour à tous ces compatriotes congolais.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau d'échange?
Merci beaucoup, monsieur Gér, pour l'accord de la parole et votre invitation à la radio Kati. Avant de toucher à la thématique du jour, je m'incline, je présente mes sincères condoléances à toutes les familles opposées de Matadi Kipala dans ce drame qui s'est produit ce jour-là. Et ce soir, je parle pour vous dire que les autorités congolaises sont considérées comme un parent irresponsable face à des enfants. Le problème de Matadi Kipala, c'est une leçon d'abord, une première leçon qui est arrivée pour que ça donne encore plus de temples à la mauvaise décision calamiteuse dans le domaine énergétique à République de Congo. Comme le sujet, forcément, c'est un cadre de l'obtention qui est tombé comme ça. Mais parcourir dans nos quartiers, nos communes, vous allez regretter. Les câbles ordinaires de ruelles sont à l'embout. Allez voir le cabine du courant. Le cabine qui partage le courant
d'Afrique. Donc vous voulez parler
un cabine du courant.
Oui, vous voulez parler des câbles.
La famille, toute la communauté qui y circule et qui touche. Ce sont des histoires que nous déplorons, monsieur Gère.
Vous voulez parler de
câbles. Les autorités congolaises doivent prendre des mesures précises pour bien gérer le domaine de l'électricité. La sécurité, ce n'est pas seulement la police qui doit sécuriser, mais dans tous les domaines, dans toutes les entreprises.
On nécessite la sécurité.
Donc, disons les entreprises qui donnent à boire, à consommer à la population, doivent être en mesure de se tirer de la population. L'électricité au Congo, c'est un problème. Nous faisons face à des problèmes. Récemment, il y a eu le directeur, de la maison civile du chef de l'État qui est mort en Gaba. C'est dit toujours à la mauvaise gestion de la SNEL. Et maintenant, nous perdons plus ou moins 25 compatriotes par manque de prise de conscience
à le travail. Trésor, s'il vous plaît.
Aux autorités congolaises.
Alors, Trésor, s'il vous plaît, quand on analyse de près la décision du ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui appelle la population congolaise qui vit sur les servitudes de la Société nationale d'électricité de quitter ces lieux. Alors comment analysez-vous cela? Alors, Trésor.
Le ministre, nos autorités aiment trop rester et être au bureau. Ils n'ont pas le temps de parcourir les quartiers, de marcher, voir comment les pauvres populations ici souffrent, messieurs.
Merci beaucoup.
Il a lancé l'appel, nous avons appris, mais qu'il circule seulement dans les quartiers, qu'il va dans
les conditions
par lesquelles, dans lesquelles la population est en train de consommer ce pouvoir. Et dans quelles conditions les câbles dans des quartiers partout. Vous trouverez un enfant, moins de 9 ans, qui a la belle chamée, qui a l'ampoule, et qui a très
voilà. Voilà. Merci Trésor. Je comprends votre inquiétude. Je comprends votre inquiétude et votre préoccupation. Et là, vous avez du mal à adhérer dans cette position qui dédouane la SNEL dans cette affaire. Merci beaucoup. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir ensemble avec nous sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Aujourd'hui, la grande question, est-ce qu'il s'agit là d'une question d'urbanisation ou de la gestion de la cité ou de la chose publique après ces drames survenus dans la partie ouest de la ville de Kinshasa qui a coûté la vie à presque 26 vendeuses. Alors nous poursuivons donc avec notre invité qui est dans ce studio, Michel Ouyumbu, qui était le président de la Corporation Nationale des Ingénieurs BTP. Monsieur l'ingénieur, vous venez de suivre cette série des auditeurs. D'abord, quelle est votre réaction après avoir écouté les uns les autres?
Non, mais ce sont des analyses messagères qui sont de très haute facture. La SNEL, comme quelqu'un le disait l'autre fois, n'a pas le monopole de la connaissance. Donc, c'est une société qui est censée nous fournir de l'énergie électrique, mais de l'énergie sûre, comme on le fait ailleurs. Il ne faudrait pas que l'énergie qu'on nous fournit nous pose des problèmes. D'abord, nous avons assez de problèmes, même si ce n'est pas le thème ne porte pas sur la SNEL. Mais néanmoins, il y a des choses qui pouvaient être très vite.
Il y a la question de la sécurité, comme l'a dit Trésor.
Oui.
La sécurité des personnes et de leurs biens ne reviennent pas uniquement. Ce ne sont pas des prérogatives uniquement de la police.
Absolument.
Parce que la sécurité publique engage beaucoup de domaines à la fois.
D'autant plus que ces câbles-là se trouvent sur le domaine public. Mm-hmm. Donc, il y a... Laisse-moi vous dire, M. J.R., que nous avons été associés au projet d'élaboration du code d'urbanisme et du code de la construction par le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Bon, son excellent monsieur le ministre est arrivé, il était plein de bonne volonté, il nous avait contactés, au travers de ses services, nous avons reçu le projet qu'il avait, tout en disant que la loi sur l'urbanisme du 20 juin 1957 que nous avions était une vieille loi et qu'il y a moyen d'élaborer un code, cette fois-ci, de l'urbanisme et de la construction. Le projet avait commencé, nous avons reçu une copie et nous avons retourné nos amendements à son excellence, monsieur le ministre, au travers de ses services. Malheureusement, il était question qu'on organise un atelier de validation de ce projet avant d'être déposé, disons, avant d'être présenté au Conseil des ministres et avant d'être évidemment transmis au Parlement pour adoption. Malheureusement, cette réunion de validation n'a jamais eu lieu. Quand nous sommes informés pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, et cela c'est depuis octobre 2020, quand nous sommes renseignés pour savoir qu'est-ce qui se passe, on nous a dit qu'il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens pour organiser un atelier de validation du code d'urbanisme. Laisse-moi vous dire, monsieur J.R., qu'aujourd'hui, 70 ans après l'indépendance, nous n'en avons pas. Nous n'avons même pas un code de construction. Nous n'avons. Parce que les gens ont évoqué les sites dangereux comme la proximité des stations-service, ainsi de suite. Mais il n'y a pas un code. Il n'y a pas un code qui dit que la station-service ne doit pas s'installer à tel endroit. La proximité par rapport aux habitations, il n'y a pas un code. Donc, nous sommes en train de naviguer dans un cafouillage, dans un désordre très, très bien planifié et organisé. Mais, parce qu'il s'agit... Quelqu'un a soulevé la question de la responsabilité. Je suis désolé. Je pense que le procureur de la République devait se saisir du dossier pour établir la responsabilité. Lui, c'est le compétent.
Est-ce qu'on a l'impression, je ne sais pas, parce que à croire les propos tout à l'heure de notre auditeur sur la réaction du ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, c'est comme si tout le monde veut dédouaner la SNEL aujourd'hui.
Évidemment, vous avez lu le communiqué. Moi, j'avais lu le communiqué de la SNEL, tout en disant que c'était un coup de foudre et que le câble, les câbles a été sectionné à la suite du coup de foudre. Et puis en plus, ces gens-là se retrouvaient dans la servitude de la SNEL. C'était une façon de s'exonérer. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'exonère. On ne peut pas s'exonérer de cette manière-là. Parce qu'il y a une responsabilité quelque part. Donc, il va falloir... On ne peut pas laisser un cas comme celui-là, comme ça. Ça fait quand même 25 personnes qui sont mortes. Ou 26, je crois. Mais si dans
donc
ma famille...
vous estimez que la SNEL est responsable?
Non, pour moi...
Et d'une part responsable aussi, la SNEL.
Pour moi, j'estime qu'il y a une responsabilité
qui est engagée.
Il faut qu'il y ait un procès pour que la SNEL soit dédouanée de ses...
Et la responsabilité du gouvernement,
absolument.
Elle est engagée à quel niveau?
Donc, la responsabilité... Vous savez, quand il y a de lois et qu'il y a de règlements, il y a même un arrêté, je crois, j'ai une copie de l'arrêté ici. Je peux vous faire la lecture, c'est l'arrêté numéro 0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes. Il y a un arrêté. Cet arrêté définit les servitudes comme étant les espaces verts, comme étant les emprises de routes d'intérêt public, conformément au plan d'urbanisme et plan cadastro, comme étant les rives de cours d'eau allant jusqu'à 10 mètres, à partir de la ligne formée par les niveaux le plus élevé qui atteignent les eaux dans leur période, et ils définissent les habités comme étant les emprises des lignes de haute tension sur une distance de 25 mètres de part et d'autre. Il y a un arrêté du gouvernement, c'est un arrêté interministériel d'ailleurs, qui a été signé tout en interdisant, l'article dit ceci, toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies à l'article 1er, c'est dessus, sont interdits. Il y a un arrêté qui existe.
Depuis 93.
Depuis 93.
Mais donc qui doit l'appliquer? Jour pour jour, après, c'est 29 ans ou 30 ans pratiquement.
Mais qui doit l'appliquer?
Si l'arrêté donc il y a la responsabilité de l'autorité.
Si l'arrêté n'a pas été appliqué, un arrêté interministériel, et si vous lisez les préambules de l'arrêté, le souci c'est eux au fait d'essayer d'éviter la recrudescence de constructions anarchiques généralisées dans tous les centres urbains du pays. Les archives sont là. Cet arrêté a été publié. Il est vieux d'une vingtaine d'années. Il n'a jamais été appliqué. Ce n'est pas à toi ou à moi d'appliquer les arrêtés, les règlements de l'État. Il y a des services qui devaient appliquer ces arrêtés-là. Où sont ces services? Et vous pensez que ces services n'ont aucune responsabilité? Moi, je crois qu'il y a une responsabilité quelque part. 26 personnes qui sont mortes, la justice doit se saisir du dossier pour que les responsabilités soient établies.
Voilà. Alors, on va passer de l'autre côté des standards pour accueillir d'autres auditeurs qui nous ont rejoints à ces niveaux du débat et attendre d'autres personnes. Ils sont nombreux. Hein. Il y a également Eddy Bokolo qui nous a appelé. Et il y a des Ograssès qu'on va accueillir d'un moment à l'autre. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Allô?
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Au moins 25 personnes, en majorité des vendeuses au marché Matadi Kibala, dans la partie ouest de la ville de Kinshasa, sont mortes électrocutées le mercredi 2 février à la suite de la coupure d'un câble électrique à haute tension de la Société Nationale d'Électricité. C'est ce thème que nous abordons au cours de cette émission. Parole aux auditeurs de ces jours. Deux questions se dégagent. Est-ce une question d'urbanisation ou simplement une question de la gestion de la cité ou de la chose publique qui semble être un peu difficile dans ce pays? Ou si on peut aller plus loin, la question de la gouvernance. Alors, Deo Gracias, vous nous avez rejoint. Vous êtes avec nous. Bonjour, Deo Gracias.
Bonjour, Monsieur JR. Bonjour à notre invité, à des milliers de Congolais. Et en tout cas, je partage mes sentiments sympathiques avec toutes les familles éprouvées, parce que ça fait mal au cœur. Monsieur JR, vous allez comprendre que la RDC ne fonctionne pas dans une jungle. La RDC, c'est un État qui est rempli, n'est-ce pas, de textes légaux, mais qui souffre d'application par les personnes, n'est-ce pas, habilitées à faire respecter, n'est-ce pas, ces textes légaux. Prenons le cas qui vient de se passer. Monsieur Juillère, c'est vrai, il y a une loi de 1993 qui, n'est-ce pas, sécurise les servitudes du domaine public de l'État, puisqu'il s'agit bien de la gestion du domaine public de l'État. Mais il y a aussi, d'autre part, les différents services qui doivent travailler en synergie pour faire respecter, n'est-ce pas, ces textes légaux au regard, n'est-ce pas, des particuliers. Quand, n'est-ce pas, les services des affaires foncières urbanisées et bien, n'est-ce pas, octroyés à les propriétaires et les services qui ont la quoi, les à Kion, n'est-ce pas, à service devenir urbanisé, ils ne tiennent compte pas qu'il existe certaines lois. Il est interdit d'habiter sous les lignes à haute tension. Mais monsieur le président, monsieur JR, prenons maintenant les cas sous espèce. Il y a des victimes, de morts d'hommes. Nous attendons seulement la réaction du ministre. Mais à qui la responsabilité? Le ministre est en train de se mettre le bâton dans les roues à travers, n'est-ce pas, sa sortie médiatique. Puisque ces gens-là, il y a les autres qui sont occupants de bonne foi. Vous leur demandez de quitter comme ça aussi longtemps qu'ils sont occupants de bonne foi. Qu'est-ce qu'on a prévu les mécanismes de leur indemnisation, ou soit leur indemnité? C'est un peu difficile parce qu'il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, d'autres propriétés créées pour que ces gens-là aillent habiter. Vous allez les déguerpir comme ça, les chasser pour dire qu'ils n'ont quitté? Est-ce qu'ils étaient, n'est-ce pas, par magie? Parce que c'est la RDC qui sait que tel domaine ne peut pas être loti. Mais voilà qu'on a loti. Et après quoi, nous avons des conséquences, il y a des drames. Et on dit...
Je me pose une question.
La responsabilité est partagée.
On va arriver à la responsabilité. Mais juste une question qui me taraude un peu l'esprit. Dans ces quartiers, à part le marché, il y a aussi des maisons d'habitation. C'est que cette maison a été... si aujourd'hui, on s'en prend simplement uniquement au marché, mais qu'en est-il des habitants qui sont là? Sont-ils établis légalement ou anarchiquement? On l'évoquerait peut-être prochainement.
Monsieur JR, j'ose croire que un particulier ne peut pas venir acquérir une propriété sans qu'il ait, n'est-ce pas, des documents à qui lui donne, n'est-ce pas, le pouvoir d'être propriétaire. Ils sont occupants de bonne foi. Toutes les maisons qui sont, n'est-ce pas, sous les lignes là, ils sont occupants de bonne foi. Ils auront à brandir, n'est-ce pas, leur titre de propriété. C'est par là qu'un problème sérieux se trouve. Gouverner, c'est prévoir. Notre gouvernement, c'est quoi? Les autorités ne brandissent que, excusez-moi les termes, les yeux terroristes pour terroriser les citoyens, que quand il y a des drames, que quand il y a des conséquences. Mais prévoir, n'est-ce pas, lorsqu'il faut urbaniser correctement afin qu'épargner ces populations-là des conséquences fâcheuses, ils ne prévoient pas.
Oui, mais le chef de l'État était prévoyant.
Et oui. N'est-ce pas aussi est aussi responsable.
Merci beaucoup.
Il faut qu'il y ait un contrôle technique.
Non, le chef de l'État était prévoyant en demandant au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour éviter ces drames. Mais voilà que à cause de l'attentisme ou encore de retard pris dans la décision, le pire est arrivé, le fatal qu'on redoutait est arrivé. Merci beaucoup, Deo Gracias, d'avoir appelé. Chico, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Voilà, on prend plutôt Maître Edmond, qui est en Bandaka. Maître Edmond.
Bonjour, Monsieur Gier.
Merci de nous avoir rejoints. Vous avez la parole, Maître Edmond. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette question?
Oui, merci. D'abord, nos condoléances à toutes les familles éprouvées. Et nous sommes émus de compassion pour toutes les victimes. Et cette situation, j'espère bien que peut-être aujourd'hui, nous nous permettons de s'attaquer indignement contre la SNEL, parce que vous savez que nous sommes dans un état où les responsabilités sont bien partagées, les fonctions sont bien partagées. Je pense que si on avait érigé un marché des Matadika Kibala, là où c'est l'incident a eu lieu, je pense que normalement, cela ne peut revenir à la responsabilité de la SNEL. La SNEL a une responsabilité de transporter, de fournir le courant. C'est une responsabilité aujourd'hui qui doit nécessairement revenir d'abord pour le marché au gouverneur de la ville de Kinshasa. Il ne doit pas être épargné, c'est lui l'acteur principal. Et puis, parce que vous avez vu qu'il y a aussi des personnes qui habitent, qui ont construit des maisons aux alentours. Je pense que c'est la responsabilité de toutes les Français. Et puis, cette question, c'est une question qui est généralisée dans le pays et on en a dénoncé plusieurs fois. Que les autorités, surtout le ministre de l'urbanisme, ainsi que le ministre des Affaires
sociales. Oui, mais Maître Edmond, je ne connais pas assez bien le statut de ces marchés, Kibala, mais tout de même, on sait que il y a plusieurs marchés qui sont déclarés des marchés pirates dans la ville-province de Kinshasa, où les gens ont squatté des lieux et ils ont créé des marchés. Nous voyons, nous vivons au quotidien ces phénomènes dans nos milliers de vies. dans nos quartiers, où les mamans qui s'improvisent des vendeuses dans nos quartiers, dans nos avenues, ils créent leur marché comme on laissait la nature horaire du vide. Quand il y a un vide quelque part, l'État n'a rien fait, alors la population squatte ces lieux et il en faut peut-être des marchés pirates.
Oui, monsieur Gérard, moi je pense que vous avez raison, ce que vous évoquez, vous avez totalement raison. Mais je crois que dans un État comme le nôtre, nous ne pouvons pas aujourd'hui s'hasarder d'affirmer que c'est la population qui emporte sur le pouvoir public. Mm-hmm. Parce que c'est partout, hein. Moi aussi j'ai vu partout ailleurs qu'il y a des marchés qui se créent partout, des mamans qui créent et qui vendent des épices et consorts. Mm-hmm. Mais je vois toujours que là où le marché ne peut être érigé, l'État intervient pour arrêter cette hémorragie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cas sous examen, le cas de Matadikiba, là, aujourd'hui, les autorités ne peuvent pas, c'est une turpitude de la part des autorités de soutenir que les personnes qui sont ou qui vendent dans ces marchés, ce sont des personnes qui se sont arrogées qui sont auto-attribués cet endroit. Mais moi, je pense que c'est vraiment difficile.
Oui, mais en droit, quand vous dites que l'erreur commune fait le droit, c'est-à-dire il y a la population qui a squatté les lieux et qui a créé un marché qui est déclaré pirate, et de l'autre côté, il y a l'État qui vient percevoir ce que nous appelons la patente par voie du bourgoumestre ou encore de l'hôtel de ville, ce qui fait que tout le monde a commis l'erreur et cette erreur fait le droit.
Exactement. L'erreur commune crée les droits. Et ouais. Vous allez voir que c'est exactement ce que je voulais dire. Qu'aujourd'hui, on appelle ça marché pirate. Sur base de quoi? D'abord, si on appelle pirate, les gens qui appellent ça pirate doivent nous dire les vrais marchés. Ceux qui ont construit des marchés, ont créé des marchés. Et si ce sont des marchés pirates, pourquoi la ville, pourquoi la commune, pourquoi les entités territoriales perçoivent des droits. Ça veut dire que ils ont acquiescé et c'est de leur responsabilité. Et c'est pas seulement à Kinshasa, je vous dis, c'est partout. C'est de tels actes. Il y a des gens qui construisent dans le lieu de fleuve. En Bamnaka, par exemple, vous trouvez quelqu'un qui construit devant la sortie du fleuve, devant un pont et devant un endroit où, lorsqu'il y a des liges, il y aura des inondations, par exemple, il y aura de pertes humaines. Partout à Guémena, à l'Istala, j'ai vu cet état de choses. Mmh. C'est-à-dire que c'est une question de responsabilité.
Tout à fait.
Aujourd'hui, comme il y a un cas qui se dessine, en tout cas, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas jeter
les ponts. Ce n'est pas le premier cas, parce que nous sommes au mois de février, évoquons les cas de drames de type K, de triste mémoire. Donc, je crois que ça fait très mal. Un marché qui a endeuillé pratiquement plusieurs familles et aux côtés d'un aérodrome. Et ça a causé des dégâts. Nous sommes en 92, je crois, si ma mémoire est très bonne. Je vois encore ces jours-là, je revenais également à des reportages à l'époque où j'étais à la chaîne nationale. Je suis passé par là et 10 minutes après, on a annoncé qu'il y a eu un drame qui s'est produit sous ces lieux. Alors, donc, il y a des cas depuis des années, 30 ans après. Finalement, on s'est dit, qui peut prendre à bras le corps ces genres de questions pour en trouver une solution une fois pour toutes?
Oui, je pense que c'est un peu ça. Nous avons suivi les drames là, nous entre là, moi, 92, j'ai presque 3 ans de naissance. Bon, on n'en revient plus, mais ce sont des cas récurrents, récursifs et répétitifs. Et je pense que la responsabilité ne revient qu'à l'État, mais c'est les journalistes. Donc, ces questions, ce que les gouverneurs, les présidents de la République, les ministres disent, ce sont les alibis, ce sont des arguments qui sont pour se justifier. Ce sont les arguments qui ne peuvent pas convaincre les gens. Je pense que pour chasser les gens qui sont à Matadikiba, là, il est question que le gouvernement puisse trouver un endroit et disponibiliser un endroit pour que nos mamans, nos frères et sœurs qui vendent, qui se retrouvent à Kinshasa, dans ces marchés, puissent aller ailleurs. On ne peut pas les déloger, on ne peut pas les chasser
Merci
comme
beaucoup.
Ça. Ce n'est pas ça la responsabilité d'un État. L'État est là pour la population. Et lorsque la population souffre, c'est l'État qui est démissionnaire.
Merci beaucoup, Maître Edmond, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et d'apporter quelques éclairages sur cette difficulté qu'on a par rapport à cette thématique. Chico, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur J.R. Bonjour aussi aux auditeurs et auditrices de la Radio Capi.
Vous avez la parole, Chico.
Oui, d'abord, merci beaucoup pour la parole. Et merci aussi pour m'avoir associé à ce débat. Je pense que ensemble nous avons suivi, ou bien nous sommes en train de suivre comment la situation de Matadikiba est en train de se dérouler. Monsieur J.R., je m'aimerais un peu dire que, en réalité, cette décision n'est pas du tout mauvaise. mais je ne pense pas que cette décision sera bien accueillie par la population. Pourquoi j'ai dit ça, monsieur J.R.? De toutes les façons, l'État congolais doit d'abord se montrer responsable à l'égard de sa population. Si je fais confiance à ma petite mémoire, je pense qu'il y a une fois au Conseil des ministres, le président de la République avait demandé à ce que les marchés de Matadiba soient délocalisés. Si nos autorités étaient sérieuses ou bien responsables, ou bien si ces autorités aimaient la population. Je ne pense pas qu'on devait parler aujourd'hui de ces drames. Maintenant qu'il y a eu drame, on veut prendre des décisions. C'est pas de la sorte qu'on peut aller avec la situation. Parce que si aujourd'hui l'État veut délocaliser la population parce qu'il y a eu drame au marché Matadikibal, la question que moi-même je suis en train de me poser est celle de savoir. Est-ce qu'il y aura de l'argent qu'on va rembourser à cette population? Et de deux, est-ce qu'il y aura un site que le gouvernement va disposer pour aller placer cette population? On doit d'abord se poser de telles questions. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu drame, on veut délocaliser la population. On se dit un peu la vérité. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, les mêmes autorités avaient pris la décision de délocaliser les grands marchés. Si aujourd'hui vous circulez dans la ville de Kinshasa, sur les artères de la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que
les travaux ont commencé déjà.
En fait, les travaux, je ne sais pas, mais si vous voyez la façon dont on a placé les vendeurs, vous allez comprendre que nous sommes toujours dans une situation compliquée parce que comme aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer les cas de Matadikiba, mais même le lendemain, nous allons encore déplorer
autre chose. On a plus assez de temps, malheureusement, on ne saura pas aller plus loin. Le temps d'accorder la parole à Simon et puis on va conclure cette émission. Simon Siloulou, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Vous avez la parole, vous êtes à Matadi.
Oui.
Quelle est votre contribution?
Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde. Mais je pense que tout ce qui se passe ou qui s'est passé, je me rappelle d'un président américain qui avait dit autrefois que vouloir une chose pour la même chose qu'on a toujours fait, on n'est pas loin d'un fou. Imaginez type K quand c'est arrivé. On avait dit qu'il fallait délocaliser ces marchés de cet endroit. Et même les marchés ici, Matadikibala, il n'y a pas longtemps qu'un véhicule remorque a ramassé une marée humaine de gens là-bas. On a dit qu'il fallait délocaliser. Et la même chose arrive encore avec les câbles de la SNEL. Et on dit la même réponse qu'il faudra délocaliser. Au fait, comme si nous n'arrivons pas à tirer des leçons sur les plans pratiques des choses ou des faits qui nous arrivent. Je donne encore raison à une autorité de ce pays qui avait dit que ce pays est détruit depuis longtemps. Parce que, imaginez, ce n'est pas les premiers faits qui arrivent de ce genre. Ou encore, moins dangereux d'ailleurs, que le feu passé qui a fait couler des familles et des familles. Et on a dit les mêmes, on a proposé les mêmes solutions, mais les solutions n'ont pas été faites.
Durable.
Moi, je pense que le laxisme, ça met en question le fonctionnement de l'administration publique de notre pays. Imaginez ce laxisme de ces gens. Nous avons l'urbanisme et là, nous avons cadastre,
affaires foncières,
mais sont les mêmes choses qui vont contre les règles, qui vendent des petites portions de terre aux mamans, qui vendent, et même qui lotissent dans des endroits interdits. Et c'est même l'État, c'est la même administration. Donc il faudra une mise en cause totale de cette administration pour moi-même sanctionner tout ce monde qui travaille dans cette administration, parce que commune de Mongafula, c'est urbano-rural, c'est une commune qui est en train d'être, qui continue à être lotie. Et nous pensons que des précautions modernes pouvait être prise ici à l'intérieur, on l'a pas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Simon hein, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission, on ne saura pas aller plus loin. On va conclure cette émission en deux minutes avec notre invité, Monsieur Michel Ouyumbu, qui est président de la corporation. Mais j'ai l'impression que finalement, les spécialistes en bâtiment et travaux publics qui ont de l'expertise hein, ou même de l'expérience en la matière, ils ne sont pas suivis, ils sont pas écoutés. Hein.
Non, merci beaucoup M. Gilles. La difficulté est la même. Nous essayons tant bien que mal d'approcher les autorités pour essayer...
Est-ce que vous avez déjà prévu un cahier des charges avec des propositions concrètes?
Absolument. Je me rappelle quand nous avons été contactés par le ministère de l'Urbanisme et Habitat en ce qui concerne les décrets, un projet de décret qu'il avait sur les permis de construire, nous l'avons rédigé un mémo de 13 pages dont j'ai l'accusé de réception. Malheureusement, le décret sur les permis de construire n'a jamais été signé par le ministre. Parce qu'il était question de revisiter l'ancien décret pour essayer de l'adapter aux circonstances actuelles. Deux ans passés, nous n'avons jamais reçu le feedback. Néanmoins, il y a un conseiller qui nous avait appelé pour nous dire qu'ils avaient reçu le document et nous avions déjà l'accusé de réception et pour nous dire qu'il était très bon et qu'ils allaient nous recontacter pour
mais,
des échanges.
Mais à quoi vos propos? C'est comme si les rapports entre vous, les spécialistes et les autorités ne sont pas, ces rapports ne sont pas au bon fixe. Hein. On vous reçoit rarement?
On nous reçoit difficilement. Je me rappelle quand le président de la République était en train de recevoir les différentes forces de la société civile, nous avons tenté d'être reçus, nous n'avons pas été
mais
reçus.
Mais vous avez reçu tout le monde, non?
Non, pas tout le monde, parce que nous n'avons pas été reçus. Malheureusement,
les musiciens étaient reçus.
Oui, mais les musiciens, d'accord, les musiciens, on les enterre.
Les musiciens, les artistes,
vous avez déjà vu dans ces pays. Vous avez déjà vu dans ces pays, Monsieur JR, un ingénieur qui a 40 ans de service, qui a construit des routes, construit des ponts, qui a été enterré par l'État congolais. Non, mais les musiciens, on les enterre. Je n'ai rien contre les musiciens, mais je pense que nous, en tant que professionnels du secteur du BTP, un secteur qui est le moteur de développement de toute une nation, on devait nous accorder quand même un peu d'espace. On devait nous donner du temps pour nous exprimer. Regardez comment l'ensemble du projet initié par le gouvernement sont en train de patauger. Je ne vais pas les citer, vous le savez. Tel projet a eu des problèmes, tel autre projet a eu des problèmes, tout simplement parce qu'ils ne donnent pas de la voix aux professionnels que nous sommes.
Merci beaucoup, Monsieur Michel Ouyumbu. Nous rappelons que vous êtes le président de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, attendez par là, bâtiments et travaux publics. Merci de nous avoir honoré de votre présence dans ce studio pour échanger de manière citoyenne et sportive avec les auditeurs sur cette question. En tout cas, merci. Qui nous préoccupe derrière cette question de pouvoir la gestion de la chose publique, la gestion, la bonne gouvernance, toute cette question qui prend en compte, même la sécurité de la population, la sécurité publique, absolument. Nous en parlerons toujours. Merci en tout cas de votre disponibilité. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Vous allez réécouter cette émission en tapant www.radiocapi.net et vous pouvez suivre en rediffusion cette émission à ce soir. À très bientôt pour un autre numéro.